Bonjour à tous et bienvenue sur la radio des freelances, la première radio pour les indépendants. Vous êtes web designer, consultant, traducteur,
chef de projet, développeur, attaché de presse, rédacteur, graphiste, ergonome, programmeur, bref.
Cette radio est pour vous. Et pour cette première mission, un dossier et une rencontre. Le dossier d'abord, autour du travail et plus précisément de votre lieu de travail. Christy vient de coécrire un livre sur comment bien travailler de chez soi. Elle nous donnera de précieux conseils. Eric, lui, a créé un espace de coworking, un lieu avec du Wi-Fi, du café et d'autres freelances qui travaillent ensemble et bien plus que cela. Enfin, une rencontre avec un ex-freelance décalé et dont le talent de dessinateur s'affiche chaque semaine à la une du blog du freelance. Allez, c'est parti.
On se rend compte que ce que recherchent en priorité les personnes qui viennent dans un espace de coworking, c'est vraiment de voir des personnes. Et le bénéfice
Eric Vandenbroek, co-créateur de la mutinerie,
qui est sortie, donc une étude vraiment qui a été menée auprès des gérants des espaces de coworking et des coworkers, les bénéfices principaux, c'est l'agrandissement du réseau professionnel, mais pas seulement du réseau professionnel, aussi du réseau social en général. C'est-à-dire que les personnes se trouvent à la fois des amis et à la fois des partenaires pour travailler. Et c'est vraiment ça une dimension qui est très importante.
À la base, c'est vrai qu'on vient dans un espace de coworking pour briser un peu l'isolement, le fait de travailler seul en permanence. Et au final, on rencontre d'autres personnes avec qui on sociabilise et avec qui on peut même faire du business.
Exactement. C'est quand même une énorme part des personnes qui ont rejoint un espace de coworking ont d'une part augmenté leur productivité, donc ils sont plus efficaces parce que c'est ce que j'appelais le syndrome de la bibliothèque, c'est qu'on est plus concentré dans un espace qui est dédié aussi à son activité professionnelle que dans un espace où à la fois on vit et à la fois on... Voilà.
Ça, c'est aussi le fait de sortir de chez soi.
Exactement.
Et de se dire, voilà, pendant 3 heures, un rythme. Je vais à cet endroit-là, il faut que 3 heures, ça déploie.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, c'est vrai que quasiment un coworker sur deux a déjà travaillé avec d'autres coworkers dans son espace, sans compter tous ceux qui ont enrichi leur projet avec la petite idée de Dominique qui a donné un petit truc sur le community management ou la petite idée de Marie qui est designer d'intérieur et qui va vous aider. Et ça, on ne comptabilise pas, mais c'est extrêmement présent. Donc ça, c'est une dimension très, très importante.
D'accord. Donc, dans la mutinerie qui va bientôt ouvrir ses portes aux coworkers, on va retrouver cet esprit, justement.
Bien sûr, on retrouve cet esprit. C'est vraiment nous, on estime que notre travail, c'est de créer un cadre qui soit libre, mais qui soit le plus adapté aux échanges, à la collaboration. On travaille sur des problématiques qui sont très intéressantes, auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense à un lieu, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à créer à la fois un sentiment d'intimité quand on a envie d'être concentré au travail, et à la fois des espaces de rencontre et de friction. Donc, par exemple, le positionnement de la cuisine, le positionnement de la boîte aux lettres sont des choses qui permettent aux gens de se rencontrer. Donc c'est nous, vraiment, notre objectif, c'est créer un espace où on peut travailler efficacement et où on fait, qu'on le veuille ou non, presque des rencontres.
D'accord, donc pour résumer, ça serait une espèce d'endroit idéal où on aurait notre cuisine à nous,
voilà.
On aurait un peu le coin salon,
bien sûr.
On aurait la bibliothèque où il n'y a pas à mourir.
Exactement.
Donc il y aurait plein de pièces comme ça, plein d'endroits qu'on réunirait sous le même toit.
Voilà.
Et ça serait peuplé par d'autres gens, un peu comme nous, ou pas comme nous, justement.
Voilà, c'est vraiment... C'est l'ambiguïté, elle est entre est-ce que comme nous ou pas comme nous, diversité ou convergence, elle est là et elle n'est pas si ambiguë que ça. En fait, il y a une grosse, grosse convergence au niveau des valeurs, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup communiqué là-dessus. Les gens qui viennent sont des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont une certaine vision de la vie et de ce que c'est qu'être indépendant. Et ensuite, il y a des diversités dans ce qu'on fait, dans les activités. Et c'est ça qui est riche. À partir du moment où on s'entend sur une certaine vision du travail et de la vie, et que derrière, on a des complémentarités en termes de travail, là, on a un équilibre qui est très, 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 très fin et très, très efficace.
Et qu'est-ce que tu dirais à un freelance qui a l'habitude de travailler chez lui, qui n'a jamais travaillé dans un espace de coworking? Quel conseil tu lui donnerais pour bien travailler là-bas, pour s'y sentir à l'aise? Est-ce qu'il n'y a pas un code qui n'est pas explicite, mais qui...
Il y a des codes.
Il y a des règles un petit peu à respecter.
Dans la plupart des espaces de coworking, c'est vrai qu'il y a cette espèce de code qui est marrant, qui consiste à mettre son casque quand on est son casque de musique, quand on est assez concentré sur ce qu'on fait et qu'on a vraiment envie d'être...
Là, ça veut dire je bosse.
Ça veut dire je bosse, point. Ensuite, c'est vrai que nous, on va avoir deux espaces un peu distincts. Donc, l'un où c'est vraiment plus axé sur le travail, l'autre qui est vraiment plus axé sur la discussion. Donc, il y a des règles qui sont un petit peu différentes dans les deux. Ensuite, les conseils, moi je crois que c'est vrai qu'il y a ce petit côté rentrée des classes qui peut faire peur parce qu'on arrive, on ne connaît pas forcément les personnes. Voilà, nous, d'abord, c'est notre rôle de faire que ça se passe bien. Nous, en général, on connaît les personnes qui arrivent un peu. Il y a souvent un point d'entrée, voilà, on a des points communs, on essaie de donner du temps. Le deuxième, c'est je crois vraiment que si à partir du moment où la personne est un peu ouverte d'esprit et pas là vraiment que pour abattre sa quantité de travail et prête à passer un peu de temps à discuter avec une personne, ça va se passer très très vite. Je pense qu'au bout de... Moi, le conseil que je donne, c'est venez 3-4 fois, ouais. Et je pense que ça suffit. En 3-4 fois, je suis prêt à faire le pari que vous aurez rencontré une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous serez content de travailler plutôt que d'être chez vous.
D'accord. Donc, le casque, ça, on le retient.
Le casque.
Je bosse.
On mettra peut-être d'autres petites astuces
oui,
aussi.
Voilà,
hein. Des petits, j'en sais rien. Moi, si même des signes, un panneau, une pastille, dans quel état je suis, est-ce que je suis... Voilà, ça c'est des trucs qu'on va expérimenter.
Comment je me présente
aux gens. Exactement, ça, on va faire.
Tu vois, voilà, c'est...
Alors, on va aussi essayer de faire des... En fait, c'est cette alternance entre lieu de travail et lieu de vie. On veut aussi que ce soit un lieu de vie. Donc, le soir, on aimerait bien qu'il y ait des jeux de société. Les gens restent, ils participent à un jeu de société. Ou alors, on a des petits déjeuners aussi le matin, quand les gens arrivent. C'est des rendez-vous, quoi. Créer des rendez-vous. Là, vraiment, c'est explicitement en termes d'étendue.
Ouais.
De toute façon, quand on regarde bien la vie, la plupart des gens qu'on a rencontrés, avec qui on travaille, avec qui on aime bien travailler, c'est des gens qu'on a rencontrés dans des... Pas forcément dans des circonstances de travail, et vraiment dans des circonstances de loisirs où on était relativement soi-même. Donc, nous, notre but, c'est d'avoir toute cette vie autour des heures d'ouverture, et aussi dans la partie avant, pendant les heures d'ouverture, qui va favoriser les rencontres.
D'accord. Donc, la mutinerie sur Paris.
Sur Paris. A priori, Colonel Fabien, on peut le dire.
D'accord.
Mais on croise les doigts.
Ouverture début d'année.
Voilà. Début d'année 2012. Début février, a priori 2012.
Donc là, à l'heure actuelle, c'est des travaux. Mais tout ça,
voilà. À l'heure actuelle, des travaux, de l'aménagement, de la décoration. Et puis tout ce qui est logistique, Internet. Mon associé s'y colle avec ardeur.
D'accord. Et concrètement, quand ça sera ouvert, il y a différentes formules pour pouvoir aller travailler à la semaine, à la journée, au mois.
Exact.
Enfin, sans tout dévoiler, ça sera un petit peu quoi?
Si, exactement. On va partir sur un peu la même philosophie qu'on avait sur le premier. Donc, des formules qui vont être au mois, quand on vient quand on veut, dans les horaires, enfin, en semaine. On vient quand on veut, mais pas avec un bureau fixe. Il y aura aussi des formules résidents, donc là avec un bureau fixe a priori, pour ceux qui ont un peu plus de matériel et qui ont besoin de laisser des choses dans l'espace. Et des formules flexibles, soit la journée, soit peut-être 10 jours par mois. L'idée, c'est vraiment ce dont on parlait. Je pense que les personnes qui viennent dans un espace, en général, viennent du travail à domicile. Et nous, on ne veut pas complètement remplacer ça. Il y a des jours où on peut travailler à domicile,
c'est
où c'est très bien, voilà, et où on a envie de passer du temps aussi avec sa famille, ses enfants. C'est très bien. Nous, c'est vraiment un espace complémentaire. C'est-à-dire, quand on a envie de faire autre chose, on a le choix de faire autre chose. Et c'est ça sur quoi on met vraiment l'accent.
Et puis sur le côté, justement, aussi rencontre et possibilité d'enrichir.
Voilà,
tout
à fait.
Tu l'as rappelé sur cette étude, son réseau professionnel, mais aussi son réseau
social, global.
Social, tout simple.
Tout ce qui vous crée des ouvertures dans la vie, qui vous déporte, à vous d'y entrer ou pas.
Voilà, donc c'est la mutinerie avec Eric. Eric, t'es avec tes frères et un associé.
Voilà, trois frères et un associé qui me connaît depuis que je pense j'ai 3 ans, donc on peut presque le mettre dans la famille.
Frère adoptif.
Voilà.
Ok, donc la mutinerie bientôt sur Paris, Colonel Fabien.
Voilà, et avec Dominique, bien sûr.
Écoute, on passera... Comme je te l'ai dit, je suis déjà passé dans la version 1.
Voilà.
Dans la version 2, on fera peut-être des radios des freelances en direct.
Ce serait très sympa, très sympa.
Et puis voilà. Hein,
on attend ça avec impatience, hâte d'ouvrir.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
On quitte la mutinerie et le coworking, direction la maison, oui, chez nous. Là où nous habitons, là où nous vivons, là où nous travaillons, nous les freelances. Christy Van Bremerch a créé Plume de Vie, une société qui aide les chefs d'entreprise, les consultants, les coachs à accoucher de leurs livres. Christy vient de coécrire un livre, apparaître en 2012. Son titre ? Mieux travailler à domicile. Un livre évidemment truffé de bonnes idées et de ce qu'elle appelle des repères. Christy Van Bremerch.
L'idée de départ, c'est de dire, travailler chez soi, malédiction ou addiction. Et l'idée, c'est de se dire, ça peut vraiment être une espèce de vie de zombie ou ça peut être une vie de liberté. Et comment faire pour limiter le côté zombie, et le côté isolement, et le côté je me développe pas et appauvrissement, et le côté je deviens ma boule et je prends 10 kilos et tout, et comment maximiser le côté Je travaille à l'heure où c'est bon pour moi de travailler. Je profite, je t'en gagne en transport et en réunion et tout ça pour faire d'autres trucs qui sont soit bons pour mon business, soit bons pour mon énergie. Je ne néglige pas tous les aspects de formation, de coaching, de réseau et tout ça, parce que c'est pas parce que je suis pas dans une boîte, au contraire d'ailleurs, que je vais négliger tout ça. Donc on a vraiment, et moi qui ai fait beaucoup de développement personnel et qui travaille avec pas mal de bouquins, etc., j'avais aussi à cœur de partager ces outils qui m'ont vraiment aidée et qui m'aident toujours avec d'autres. Et notamment des gens qui soit travaillent chez eux mais ont besoin d'un second souffle, soit s'installent chez eux, donc soit comme indépendants, soit comme retraités, soit comme chômeurs. Il y a plein de gens autres que des indépendants qui travaillent de chez eux. Mais on a quand même si on dit qu'on l'adresse à tous ces gens-là, il est quand même plutôt anglais indépendant, puisque Marie, moi je dis que je suis patronne de SARL, ce qui est le cas, et Marie maintenant elle a sa boutique, donc elle ne travaille plus de chez elle. Mais quand on a commencé ce bouquin, elle montait le projet, donc elle était beaucoup à la maison. Donc elle l'a vécu pendant à peu près un an.
Alors, quels sont pour toi les... Tu parlais de repères dans ton bouquin.
Ouais, c'est... L'idée, c'est que comme on n'a pas de cadre, ni temporel, ni relationnel, ni spatiaux, il va falloir qu'on se les crée nous-mêmes. Et donc, on s'est dit, une des choses qui crée... Enfin, c'est comment te fixer à toi ton cadre. Et donc, on va se repérer dans cette espèce de no man's land spatio-temporel. On va aider les gens à créer à se poser les bonnes questions pour se créer leur propre balise. Donc moi, j'aime bien le mot balise, mais ça parle à personne. Donc on a mis le mot repère. Est-ce qu'il nous allait bien, voilà.
Donc des repères. Donne-moi quelques exemples de bons repères. Alors, à la fois sur le côté pro, à la fois sur le côté
personnel. Un que j'aime bien, c'est toujours tout mélangé pro perso. Moi, j'aime bien celui qui s'appelle « Tu n'oublieras pas d'apprendre ». De te former. D'abord identifier ses propres stratégies de formation. T'apprends en faisant, t'apprends en lisant, t'apprends en ayant des formations, mais investis là-dessus, parce que d'abord c'est bon pour soi, et puis tes clients, ils aiment bien voir que tu évolues toi aussi. Un autre repère, c'est
revenir à son père concrètement,
j'ai oublié je l'ai écrit
parce que j'allais dire concrètement, tu mets ça comment en pratique? Je suis chez moi, je veux me former. Moi, j'ai plein d'idées si tu veux, mais comment tu structures ça?
Alors, moi, je demande, je conseille plutôt de te donner des objectifs, tu vois. Dans genre, cette année, je crois que je conseille ça, mais tu vois, là, c'est ce qui me vient aujourd'hui. Je conseillerais plutôt de te dire, tiens, je lirais peut-être tant de bouquins de développement personnel ou de management par mois. Tu vois, peut-être un, mais d'accord, un chaque mois. Moi, je me donne comme objectif aussi de... alors, j'ai jamais parlé de jeux, hein. J'ai toujours dit « on » ou bien donné des exemples de personnes. Mais moi, là, Christy, je conseille aussi... Je m'astreins à prendre une journée de formation minimum ou de coaching, tu vois, ou de ressourcement professionnel, type formation par mois. Donc ça, c'est un vrai budget. Et quand je rencontre d'autres gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, j'ai longtemps mon réseau, puis je repars, tu vois, avec envie de faire, quoi, une envie de renouveler. Et c'est l'idée aussi que quand on est indépendant, enfin quand on travaille souvent à son compte, on est beaucoup ressource pour l'autre, et qu'une ressource pour l'autre doit se ressourcer. Sinon, moi, je l'ai beaucoup vécu ça au début, tu vois, je me sentais vraiment pressée comme un citron. Et une fois que j'avais écrit le bouquin du mec, il avait l'impression que je ne pouvais plus rien lui apporter, ce qui était sans doute vrai à l'époque. Enfin, je trouve ça très faux. Et du coup, c'est ciao. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi avoir des liens dans la durée et pas sentir que je suis une ressource épuisable, mais une ressource inépuisable. Voilà. Mais une ressource, il faut la ressourcer.
À un moment donné, on voilà. a besoin, voilà. Alors que justement, toi, tu as besoin aussi de te ressourcer pour pouvoir ressourcer.
Oui, et puis tu vois, alors mes clients, c'est souvent quand même du one ou two shot, soit j'écris un ou deux bouquins avec eux. Mais là, par exemple, j'anime donc depuis 2 ans avec Anapio un réseau à peu près mensuel, tous les mois et demi. Et là, c'est compliqué parce que c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois. Et donc, dans le mois et demi qui s'est écoulé, ici, Anna et moi, on s'est parcourus, on n'a pas eu des expériences vraiment différentes.
Ça risque de retourner un petit peu. Il y a une redite, il y a des sujets
voilà,
qui vont revenir.
Voilà, on innove moins.
Voilà. Et tu as besoin d'être créative en permanence pour pouvoir...
De me ressourcer pour apporter aux autres de nouvelles ressources. Et tout, voilà, j'ai vraiment... C'était pas prévu, mais pendant une bonne partie du petit-déj, j'ai parlé de l'expo que j'avais vue quelques jours avant qui m'avait complètement bouleversée, mais qui avait un lien avec le sujet. Et je pense que sans cette expo, j'aurais été moins riche. Mais du coup, il faut du temps pour voir des expos et, ça, c'est pour apprendre et pour avoir d'autres angles de vue que sa petite fenêtre.
Alors, aller à une expo, c'est une volonté aussi. Voilà, c'est justement parmi ces repères que tu parles.
Alors ça, c'est plutôt... on a parlé des expos, c'est faire des pas de côté créatifs. Tu feras des pas de côté créatifs. Donc c'est quand tu n'arrives plus à bosser. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'entêter. et parfois on passe une heure ou même 10 minutes à faire autre chose. Donc on a donné des idées pour 10 minutes, une heure et une demi-journée de break, des choses comme ça. On a aussi dit, tu ne viendras pas partir en vacances, parce que pour Marie et moi, on a vu comment c'était compliqué le sujet des vacances. Ça a l'air de te parler.
Avec les freelances,
c'est compliqué. Ouais. Moi, tu vois, moi cet été, il n'y a pas un jour où j'ai pas bossé. Alors je bossais parfois une heure par jour. Et j'étais furax contre moi de ne pas m'être organisée. Donc j'étais partie en Corse, hein. Je suis partie en vacances. Mais le matin, tous les matins, à 6h, de 6 à 9, j'étais debout pour j'étais sur mon canapé, tu vois, mais j'écrivais. Mais n'empêche que je faisais mon bouquin et un truc de client. Et je me suis dit, putain, tu t'organises comme tu veux et t'es même pas foutu de débrancher une semaine cet été. Et ben non. Après, bon, j'ai débranché à l'automne où j'avais moins de travail et tout. Mais malgré tout, j'étais en colère contre moi.
La limite, bah, c'est grave que ça aussi.
Non, surtout que de 6 à 9, après tu profites bien de ta journée.
C'est ça. Mais tu vois, sinon, genre. Si tu prends pas ce temps pour tes clients, peut-être parce qu'eux ils sont peut-être pas encore en vacances.
Ou par mon bouquin aussi.
Ouais. Donc du coup, si tu prends pas ce temps-là, tu vas stresser dans la journée en disant c'est vrai, j'aurais besoin de voir un petit peu, etc. Travailler un petit peu.
Ah, mais le problème c'est que je m'ennuie parfois aussi quand je travaille pas. Tu vois, j'ai parfois du mal à. Donc, débrancher vraiment sans travailler.
Tu fais une petite dose.
Voilà, mais là, on est parti à New York et là, quand je suis à l'étranger, je peux pas travailler. Donc là, pour le coup, ça m'a aidé à débrancher vraiment. Mais je me suis ennuyée de mon travail malgré tout.
Ah oui, c'est ce qu'on aime.
Ouais.
D'accord. Un autre exemple européen, je sais pas, peut-être. Donc on a vu la formation.
Alors, et aussi, tu choisiras tes clients et partenaires.
C'est un que j'aime bien.
C'est un des derniers. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est un repère très réaliste, parce que parfois on se dit qu'on n'a pas forcément les moyens de les choisir. Et donc moi, j'ai donné. Enfin, au moment où j'ai écrit ce repère, je venais dire non à un client. Et du coup, ça m'a permis de classer les clients en trois typologies. Je ne sais même pas si je l'ai écrit, ça, tu vois, dans le bouquin. En gros, les clients vraiment très très sympas, avec qui tu adores bosser et qui te valorisent profondément. Les clients pas forcément aussi sympas, mais qui t'apprennent quelque chose. Donc, tu vois, ça a un coup de bosser avec eux parce qu'ils ont des... Mais franchement, tu grandis en gestion de clients et en tout que tu vas apprendre. Et les clients, c'est... Donc, les A, les B, les C, no way. Ceux qui vont te détruire, te faire des petites remarques, pas vouloir te payer, pas te payer à temps, te dévaloriser. Enfin, moi, j'en ai quand même eu deux, trois...
On a tous essayé, de toute façon.
Et je pense que ces clients, ça coûte tellement cher en insomnie, en dévalorisation, en perte d'assurance et tout, que ces clients-là, même si t'es à la rue, il faut éviter de les prendre. Et donc, ben, je donne des conseils de d'abord remercier pour les clients géniaux qu'on a, tu vois. Et se dire, j'ai de la chance d'avoir ces clients-là. Et même les A et les B, tu vois, que les B, ils t'apprennent plein de trucs aussi. Deux, quand tu fais de la com, donc ton blog, ta newsletter et tout ça, pensez à tes clients géniaux avec qui tu fais bosser, toi, des trucs comme ça. Et dire non, bon, se dit, c'est pas mal dire non. Et donc, moi, j'appelle ça, enfin, après un coach avec qui j'avais bossé, créer les conditions du miracle. Voilà, c'était ça le... C'était ça le thème du repère. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est tu chériras les feedbacks, ou tu demanderas des feedbacks. Je pense que quand on bosse seul, on a encore plus besoin d'avoir des retours. Mais ça fait très peur, tu vois. Moi, mon premier feedback, la première fois que j'ai pris rendez-vous avec une cliente pour avoir un feedback, j'ai pas dormi de la nuit. Et elle m'a dit que des trucs hyper sympas. Je pensais qu'elle avait pas du tout aimé mon travail parce qu'elle était partie. Elle avait arrêté le boulot un peu avant la date prévue, mais parce qu'elle avait peut-être des raisons que je connaissais pas. Et elle m'a fait son feedback 6 mois après. Il était hyper chaleureux et apparemment, elle avait adoré, tu vois. Donc, en fait, on se fait une montagne de trucs. Et donc là, je donne les questions à poser, je dis ce que ça fait, comment ça fait progresser, comment ça fait du bien. Il y en a aussi un que j'adore de repère, c'est tu partiras à la pêche aux compétences. Et donc, j'ai un super outil que j'ai chopé dans, tu vois, Psychologie Magazine. C'est quand tu sais plus trop où tu vas, en termes d'indépendant, tu vois, parce que parfois, on est un peu paumé quand on est indépendant. Aller voir des gens qu'on connaît, à qui on a confiance et des gens bienveillants, et leur demander en quoi vous me trouvez compétent. Et ce qui est le plus dur... Tout noter ses réponses sans rien dire. Sans dire mais non, mais non, mais non. Juste noter. Et après, se faire une synthèse. Et là, tu te vois, bah, finalement, c'est vrai. Je fais bien ça, je fais bien ça. Et voilà ce que je devrais faire plus. Et voilà ce que. Tu vois, après, tu repars.
Bien.
Mais oui, mais surtout, les gens, ils n'ont pas de raison de te mentir, tu vois, parce qu'on est tous compétents dans quelque chose. Et donc, moi, je l'ai fait. Et ça m'a vraiment regonflé à un moment où j'en avais besoin. Et du coup je l'ai fait aussi en miroir à quelqu'un d'autre, tu vois, enfin je dis, bah, si tu veux je te le fais aussi au même moment. Et les gens étaient vraiment en plus ils pouvaient rien dire parce que c'était la règle du jeu, donc ils pouvaient pas dire mais non c'était facile, j'étais avec d'autres, voilà, on n'a pas le droit.
D'accord.
Voilà, donc tu vois, je transmets ces outils là de pensée positive, de dire tu peux choisir ta vie, tu peux choisir avec qui tu es, comment tu gères ton temps, mais bien sûr, comme on peut se perdre, et ben voilà les codes.
C'était Christy pour Mieux travailler à domicile, écrit avec Marie Bousquet, sorti en mars 2012 aux éditions Duluc. Changement de décor, nous sommes au Café Bastille à Paris, à l'heure du déjeuner. Autour d'un filet de bar et d'un feuilleté aux pommes de terre, je vous présente un ex-freelance qui illustre chaque semaine le blog du freelance par un de ses dessins dont il a le secret. Présentation.
Alors, c'est parti. Alors, Eric Thiello, informaticien, pour faire court.
Ça veut dire quoi, informaticien?
Informaticien, ça veut absolument rien dire. Ça n'existe plus. On va dire que je fais de la gestion de projets informatiques dans une banque.
D'accord.
Ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus, soyons honnêtes.
Donc, quand on s'est connu, il y a à peu près 3 ans maintenant, presque, tu étais freelance.
Oui.
Donc bon, aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté, on peut dire ça comme ça.
De l'autre côté de la barrière, oui.
Voilà.
Du côté mais, sombre de la force.
Mais tu as toujours conservé quelque chose qui vient du monde du freelance. En fait, c'est cette facilité à dessiner.
Oui.
À produire des dessins plutôt drôles, caustiques, et qui sont publiés, enfin, bon, certains sont publiés tous les vendredis sur le blog du freelance.
Quand j'ai le temps.
Quand t'as le temps. Généralement, t'as le temps.
Excusez-moi, monsieur.
On l'excuse. Pourquoi tout ça déjà? Pourquoi ces dessins? Ça, c'est depuis tout petit, c'est...
Alors les dessins, c'est tout petit déjà, effectivement, à la maternelle. Très petit, ou fierté de ma mère, j'ai été publié dans le journal de la ville quand j'étais en primaire. C'est quand même formidable. Alors le dessin, pour l'avoir revu depuis, il valait quand même pas grand chose, mais j'ai été publié comme quoi. Et ensuite, effectivement, j'ai continué à dessiner en cours avec des caricatures de mes profs ou de mes potes, en les intégrant dans les petites histoires humoristiques. Et ça va dire que ça a continué au travail. Parce que sinon on s'ennuierait quand même.
Oui, on va dire ça.
Enfin moi en tout cas.
Et justement, dans tes dessins, c'est le monde du travail. Toujours. Enfin, principalement,
oui.
C'est quand même le monde du travail. Tes collègues savent que tu fais ça ou
Non,
pas tous.
En fait, en général, ils l'apprennent au fur et à mesure. Et quand je quitte une boîte, une grande partie de mes anciens collègues sont au courant.
C'est le pot de départ.
Voilà,
le
pot de départ, je déballe tout. Ah, j'ai parlé de vous. Non, c'est pas vraiment autobiographique sur ma vie au boulot. C'est inspiré de temps en temps de certains traits de caractère, parfois ou même souvent des miens. Et c'est pour m'amuser, en fait. C'est des petites histoires qui m'amusent. Alors, j'ai commencé en faisant ça en réunion, beaucoup, sur en dessinant mes chefs divers et variés qui racontent des fois des choses assez énormes. Et juste sur un petit coin de feuille, faire un petit dessin du chef en train de dire une connerie, ça me faisait beaucoup rigoler. Et là, pour le coup, ça faisait rire mes collègues directs. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas, voilà. Puis pourquoi pas en faire des histoires plus longues et donc j'ai créé un petit personnage de mon blog et depuis je l'ai fait vivre.
Donc c'est ma vie au boulot, le blog.
Le blog, c'est ma vie au boulot, voilà.
D'accord. Et tu y a des dessins de deux types, en fait. Il y a des petites histoires, des strips,
voilà.
Ou alors tu as simplement, comme sur le blog du freelance, un seul dessin.
Oui.
C'est une question de temps.
Ça se construit pas forcément pareil. Un strip, il faut un peu plus le réfléchir. Les dessins, les illustrations d'une case, c'est plus l'idée du moment qui me fait marrer, quoi. Alors j'ai eu un gros passage, j'avais plus le temps de dessiner de strip où c'était essentiellement des illustrations sur des idées qui me faisaient marrer. Pas mal avec mettant en scène des bonbons parce que c'est un petit peu mon point faible. Voilà. Il faut toujours mon paquet de bonbons dans mon tiroir, sinon je ne vais pas bien. du sucre. Et ça me faisait marrer de les mettre de faire des petites histoires avec, donc j'ai fait ça quelques temps. Et là, c'est pas parce que je travaille dans une banque, mais j'ai quand même un petit peu plus de temps pour me remettre à faire des strips. Donc
d'accord.
Je me suis remis au strip. Voilà.
Et les strips, c'est toujours une petite histoire inspirée de ce que tu vis au quotidien.
C'est voilà, plus ou moins inspiré. Voilà. C'est des grands traits de caractère qui se retrouvent au bureau, quoi.
Et effectivement, on pense à divers quand on voit tes dessins, parce que c'est le même univers. C'était quelque chose qui t'a servi un peu comme inspiration, ou tu l'as découvert
En fait, je connaissais pas Dilbert avant, et on me l'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, il y a pas mal de similitudes, sûrement parce que c'est le même univers, c'est le monde du travail. Donc, dès lors qu'on a travaillé dans une grande entreprise, on connaît tous les travers des grandes entreprises, donc c'est à peu près normal que ça se retrouve dedans. On m'a pas mal comparé en fait à Garfield, et ça, pour moi, effectivement, ça se rapprocherait un peu plus de ça, parce que j'ai pas mal lu quand j'étais petit Garfield, donc d'accord, s'il devait y avoir une source d'inspiration, ce serait plus de ce côté-là. Mais maintenant,
les poils en moins, quoi.
Les poils en moins, et voilà. Mais dans l'esprit, un peu.
Dans l'esprit, c'est un peu ça.
Voilà.
Et aujourd'hui, ces dessins, tu continues. Donc, il y a Ma Vie au Boulot.
Oui.
Tu viens de sortir un nouveau blog sur, qui s'appelle Approximation Press, où là, c'est plus l'actualité.
Voilà.
Et avant, tu étais dans l'univers du travail. Là, tu dérives vers l'actualité au sens large.
Oui.
C'est quoi là qui a fait que tu as eu envie de.
C'est. Mais, en fait, toujours sur Ma Vie au Boulot, il arrivait de temps en temps que je fasse un dessin un petit peu d'actualité, juste parce qu'il y avait un truc dans l'actu qui m'avait fait. Faire réagir, et il y a une personne qui m'a dit que je devrais en faire plus, d'une part, et puis surtout,
tiens,
ça me rappelle quelqu'un, encore un, et donc je me suis mis à en faire plus, et je trouvais que ça n'avait pas forcément de rapport avec Ma Vie au Boulot, donc j'ai décidé de créer un blog à part, Approximation de Presse, donc c'est un regard, mon regard, on va dire, sur l'actualité. J'y connais pas grand chose, mais il y a des choses qui me font réagir.
Ça
veut pas dire que j'ai pas mon mot à dire. Voilà.
Et au niveau de la fréquence de publication, c'est toutes les semaines, c'est quand l'idée vient, tu t'es fixé justement une routine.
Je me suis absolument rien fixé. Dès lors que c'est une contrainte, je le fais plus. Donc je me suis rien fixé du tout. J'essaie de le mettre à jour, de le faire vivre quand même, mais c'est vraiment en fonction de l'actu. Donc on a été très gâtés ces derniers temps, donc si je me laissais faire, je publierais plusieurs fois par jour. Donc il faut quand même se limiter, donc j'essaie de mettre à jour plusieurs fois par semaine quand même, 2-3 fois, mais j'ai un peu raté cette semaine, j'ai rien mis, il faut que je me rattrape en rentrant au travail.
Est-ce qu'il y a des dessins que tu n'as pas publié parce que tu dis non, là je vais trop loin, je peux pas, il va se reconnaître, ou alors
je n'ai absolument aucune limite, aucune censure, je suis ma propre censure et je ne me censure pas. J'ai eu des censures sur d'autres sites, donc des dessins qu'on m'a demandé pour des blogs qui n'ont pas été publiés parce que jugés un peu trop limite. Dans ce cas-là, je les ai publiés sur mon blog à moi parce qu'il n'y a pas de raison.
De mémoire, je crois que j'ai jamais censuré.
Non. J'ai jamais été.
Quelques hésitations sur l'orthographe.
Ah, ça, l'orthographe. Ça,
mais bon, après.
C'est
voilà,
le problème quand on ne se relit pas. Ouais. Pas mal de dessins étant fait un petit peu à l'arrache.
C'est vrai que j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, mais c'est vrai que l'univers du freelance, c'est pas forcément celui de nous.
Non.
Quoique. Ouais, ça peut le faire quand même. D'accord. Et est-ce que tu as des projets par rapport à ces deux blogs, par rapport à tes personnages? Est-ce que ça peut être un bouquin? Ça peut être. Quelque chose qui peut devenir un business à part entière, enfin une source de revenus, puisque c'est quelque chose maintenant que tu maintiens depuis plusieurs années. Mm-hmm. Tu as une masse de lecteurs, tu as des gens qui aiment ce que tu fais. On peut se dire que.
On pourrait.
Ouais.
On pourrait se dire. Donc là, effectivement, j'ai un projet de sortir un deuxième recueil pour Ma Vie au Boulot. Donc j'avais déjà sorti un recueil il y a bien 4 ans maintenant, donc ça date un petit peu, où j'avais mis donc dans un bouquin les 100 strips, en fait, les 100 premiers strips avec une vingtaine d'inédits. Et là, dans l'idée, je vais faire la même chose avec les 100 nouveaux strips que j'ai fait depuis. Donc il m'a fallu un an pour en faire 100 et depuis 4 ans pour en refaire 100. Donc c'est plus la même fréquence. Mais je m'y suis remis sérieusement, donc là ça avance plutôt bien. Et donc je suis en train de réfléchir à comment publier ce deuxième recueil. Et si ça me rend riche, ce sera formidable. C'est pas le but, mais si ça peut.
Après nous, ça nous fait rire.
Voilà.
Et bien voilà, c'était la première émission de la radio des freelances. J'espère que vous aurez appris des choses. La musique d'intro est signée de Wildest Boy Alive. Le titre s'appelle Courage. Et du courage, il nous en faut tous les jours, mais on a quand même beaucoup de chance d'être des freelances. Hein. Voilà, je vous dis au mois prochain. D'ici là, envoyez-moi un petit mail pour me dire ce que vous pensez de l'émission, ou si vous avez envie de participer à la prochaine. Et n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur votre blog. Voilà, je vous dis à très bientôt.